Marivaux, le paysan parvenu, cinquième partie. J'ai dit dans la dernière partie que je me hâtais de me rendre chez Madame Rémy, où m'attendait Madame de Ferval. Il était à peu près 5h30 du soir quand j'y arrivai. Je trouvai tout d'un coup l'endroit, je vis aussi le carrosse de Madame de Ferval dans cette petite rue dont elle m'avait parlé, et où était cette porte de derrière par laquelle elle m'avait dit qu'elle entrerait. Et suivant mes instructions, j'entrai par l'autre porte, après m'être assuré auparavant que c'était là que demeurait Madame Rémy. D'abord, je vis une allée assez étroite qui aboutissait à une petite cour au bout de laquelle on entrait dans une salle, et c'était de cette salle qu'on passait dans le jardin dont Madame de Ferval avait fait mention. Je n'avais pas encore traversé la cour qu'on ouvrit la porte de la salle, et apparemment qu'on m'entendit venir. Il en sortit une grande femme âgée, maigre, pâle, vêtue en femme du commun, mais proprement pourtant, qui avait un air posé et matois. C'était Madame Rémy elle-même. « Que demandez-vous, monsieur ?» me dit-elle quand je me fus approché. « Je viens, répondis-je, parler à une dame qui doit être ici depuis quelques moments ou qui va y arriver bientôt. »« Et son nom, monsieur ?» me dit-elle. « Madame de Ferval, repris-je, et sur le champ, « Entrez, monsieur. » J'entre. Il n'y avait personne dans la salle. « Elle n'est donc pas encore venue, lui dis-je. « Vous allez la voir, me répondit-elle, en tirant de sa poche une clé dont elle ouvrit une porte que je ne voyais pas et qui était celle d'une chambre où je trouvais Madame de Ferval assise auprès d'un petit lit et qui lisait. « Vous venez bien tard, monsieur de la Vallée, me dit-elle en se levant. « Il y a pour le moins un quart d'heure que je suis ici. » « Hélas, madame, ne me blâme pas, dis-je. Il n'y a point de ma faute. J'arrive en ce moment de Versailles, où j'ai été obligé d'aller, et j'étais bien impatient de me voir ici. » Pendant que nous parlions, notre complaisante hôtesse, sans paraître nous écouter, et d'un air distrait, rangée par-ci par-là dans la chambre, et puis se retira sans nous rien dire. « Où vous en allez donc, madame Rémy ? » lui cria madame de Ferval en s'approchant d'une porte ouverte qui donnait dans le jardin. « Oui, madame, répondit-elle, j'ai affaire là-haut pour quelques moments, et puis peut-être avez-vous à parler à monsieur. Aurez-vous besoin de moi ?»« Non, dit madame de Ferval, vous pouvez rester si vous voulez, mais ne vous gênez point. » Et là-dessus, la Rémy nous salue, nous laisse, ferme la porte sur nous, ôte la clé que nous lui entendîmes retirer, quoiqu'elle y alla doucement. « Il faut donc que cette femme soit folle. « Je crois qu'elle nous enferme, » me dit alors Madame de Ferval, en souriant d'un air qui entamait la matière, qui engageait amoureusement la conversation, et qui me disait « Nous voilà donc seuls. »« Qu'importe, lui dis-je, et nous étions sur le pas de la porte du jardin, nous n'avons que faire de la Rémy pour causer ensemble. Ce serait encore pis que la femme de chambre de là-bas. N'avons-nous pas fait marcher que nous serons libres ?» Et pendant que je lui tenais ce discours, je lui prenais la main, dont je considérais la grâce et la blancheur, que je baisais quelquefois. « Est-ce là comme tu me contes ton histoire ?» me dit-elle. « Je vous la conterai toujours bien, lui dis-je, ce conte-là n'est pas si pressé que moi. « Que toi ?» me dit-elle, en me jetant son autre main sur l'épaule. « Et de quoi donc es-tu tant pressé ?»« De vous dire que vous avez des charmes qui m'ont fait rêver toute la journée à eux, » repris-je. « Je n'ai pas mal rêvé à toi non plus, » me dit-elle, « et tant rêvé que j'ai pensé ne pas venir ici. » « Et pourquoi donc, maîtresse de mon cœur ?» lui repartis-je. « Oh, pourquoi ?» me dit-elle. « Et que tu es si jeune, si remuant. Il me souvient de tes vivacités d'hier, tout gêné que tu étais, et à présent que tu ne l'es plus, te corrigeras-tu. J'ai bien de la peine à le croire. Et moi aussi, lui dis-je, car je suis encore plus amoureux que je ne l'étais hier, à cause qu'il me semble que vous êtes encore plus belle. « fort bien, » me dit-elle avec un sourire, « voilà de très bonnes dispositions et qui me rassurent beaucoup. » Être seul avec un étourdi comme vous, sans pouvoir sortir, car où est-elle allée, cette sotte femme qui nous laisse ? Je gagerai qu'il n'y a peut-être que nous ici actuellement. Ah, elle n'a qu'à revenir, je ne la querellerai pas mal. Voyez, je vous prie, à quoi elle m'expose. Par la mardi, lui dis-je, je vous en parlais bien à votre aise. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être amoureux de vous ? Ne tient-il qu'à dire aux gens, tenez-vous en repos ? Je voudrais bien vous voir à ma place pour savoir ce que vous feriez. Va, va, tais-toi, dit-elle d'un air badin, j'ai assez de la mienne. Mais encore, insistai-je sur le même ton, « Eh bien, à ta place, reprit-elle, je tâcherai apparemment d'être raisonnable. Et s'il ne vous servait de rien d'y tâcher, répondis-je, qu'en serait-il ? Oh, ce qu'il en serait, dit-elle, je n'en sais rien. Tu m'en demandes trop, je n'y suis pas. Mais qu'importe que tu m'aimes, ne saurais-tu faire comme moi ? Je suis raisonnable, quoique je t'aime aussi. Et je ne devais pas te le dire, car tu n'en feras que plus de folie, et ce sera ma faute, petit mutin que tu es. Voyez comme il me regarde. Où a-t-il pris cette mine-là, ce fripon ? On y saurait tenir. Parlons de Versailles. Oh, que non, répondis-je, parlons de ce que vous dites que vous m'aimez. Cette parole est si agréable, c'est un charme de l'entendre. Elle me ravit, elle me transporte. Quel plaisir ! Ah, que votre chère personne est enchantée. Et en lui tenant ce discours, je levai avidement les yeux sur elle. Elle était un peu moins enveloppée qu'à l'ordinaire. Il n'y a rien de si friand que ce joli corset-là, m'écriai-je. Allons, allons, petit garçon, ne songez point à cela, je ne le veux pas, dit-elle. Et là-dessus, elle se raccommodait assez mal. Et ma gracieuse dame, repartis-je, cela est si bien arrangé, n'y touchez pas. Je lui pris les mains alors, elle avait les yeux pleins d'amour, elle soupira, me dit, que me veux-tu, la vallée ? J'ai bien mal fait de ne pas retenir la Rémy, une autre fois je la retiendrai, tu n'entends point raison, recule-toi un peu, voilà des fenêtres d'où on peut nous voir. Et en effet, il y avait de l'autre côté des vues sur nous. Il n'y a qu'à entrer dans la chambre, lui dis-je. « Il le faut bien, reprit-elle, mais modère-toi, mon bel enfant, modère-toi. Je suis venu ici de si bonne foi, et tu m'inquiètes avec ton amour. »« Je n'ai pourtant que celui que vous m'avez donné, répondis-je. Mais nous voilà debout, cela fatigue. Assoyons-nous. Tenez, remettez-vous à la place où vous étiez quand je suis venu. »« Quoi, là, dit-elle, oh, je n'oserais, j'y serais trop enfermé, à moins que tu n'appelles la Rémy. Appelle-la, je t'en prie. » Ce qu'elle disait d'un ton qui n'avait rien d'opiniâtre, et insensiblement, nous nous approchions de l'endroit où je l'avais d'abord trouvée. « Où me mènes-tu donc ? » dit-elle d'un air nonchalant et tendre. Cependant, elle s'asseyait, et je me jetai à ses genoux, quand nous entendîmes tout à coup parler dans la salle. Et puis, le bruit devint plus fort, c'était comme une dispute. « Ah, la vallée, qu'est-ce que c'est que cela ? Lève-toi ! » s'écria madame de Ferval. Le bruit s'augmente encore. Nous distinguions la voix d'un homme en colère contre qui madame Rémy, que nous entendions aussi, paraissait se défendre. Enfin, on mit la clé dans la serrure, la porte s'ouvre et nous vîmes entrer un homme de 30 à 35 ans, très bien fait, de fort bonne mine, qui avait l'air extrêmement ému. Je tenais la garde de mon épée et je m'étais avancé au milieu de la chambre, fort inquiet de cette aventure, mais bien résolu de repousser l'insulte, supposé que c'en fût une qu'on eût envie de nous faire. « À qui en voulez-vous, monsieur ? » lui dis-je aussitôt. Cet homme, sans me répondre, jette les yeux sur madame de Ferval, se calme sur le champ, ôte respectueusement son chapeau, non sans marquer beaucoup d'étonnement, et s'adressant à madame de Ferval, « Ah, madame, je vous demande mille pardons, dit-il, je suis au désespoir de ce que je viens de faire. » Je m'attendais à voir une autre dame à qui je prends intérêt, et je n'ai pas douté que ce ne fût elle que je trouverais ici. « Ah vraiment, oui, lui dit madame Rémy, il est bien temps de demander des excuses, et voilà une belle équipée que vous avez fait là. Madame qui vient ici pour affaires de famille, parler à son neveu qu'elle ne peut voir qu'en secret, avait grand besoin de vos pardons, et moi aussi. « Vous avez plus tort que moi, lui dit l'homme en question, vous ne m'aviez jamais averti que vous receviez ici d'autres personnes que la dame que j'y cherchais et moi. » Je reviens de dîner de la campagne, je passe, j'aperçois un équipage dans la petite rue, je crois qu'à l'ordinaire c'est celui de la dame que je connais, je ne lui ai pourtant pas donné rendez-vous, cela me surprend, je vois même de loin un laquais dont la livrée me trompe, je fais arrêter mon carrosse pour savoir ce que cette dame fait ici, vous me dites qu'elle n'y est pas, je vous vois embarrassé, qui est-ce qui ne se serait pas imaginé à ma place qu'il y avait du mystère ? Au reste, ôtez l'inquiétude que cela a pu donner à madame, c'est comme si rien n'était arrivé. « Et je la supplie encore une fois de me pardonner, ajouta-t-il, en s'approchant encore plus de madame de Ferval, avec une action tout à fait galante et qui avait même quelque chose de tendre. Madame de Ferval rougit et voulut retirer sa main qu'il avait prise et qu'il baisait avec vivacité. Là-dessus, je m'avançai et ne crus pas devoir demeurer muet. « Madame, ne me paraît pas fâchée, dis-je à ce cavalier. Le plus avisé s'abuse. Vous l'avez prise pour une autre. Il n'y a pas grand mal. » Elle vous excuse, il ne reste plus qu'à s'en aller, c'est le plus court, à présent que vous voyez ce qui en est, monsieur. Là-dessus, il se retourna et me regarda avec quelque attention, « Il me semble que vous ne m'êtes pas inconnu, me dit-il. Ne vous ai-je pas vu chez madame une telle ?» Il ne parlait, s'il vous plaît, que de la femme du défunt, le seigneur de notre village. « Cela se pourrait, lui dis-je en rougissant, malgré que j'en eusse. Et en effet, je commençais à le remettre lui-même. « Eh, c'est Jacob !» s'écria-t-il alors. « Je le reconnais, c'est lui-même !» Et parbleu, mon enfant, je suis charmé de vous voir en si bonne posture. Il faut que ta fortune ait bien changé de face pour t'avoir mis à portée d'être en liaison avec madame. Tout homme de condition que je suis, je voudrais bien avoir cet honneur-là comme vous. Il y a 4 mois que je souhaite d'être un peu de ses amis. Elle a pu s'en apercevoir, quoique je ne l'ai encore rencontrée que 3 ou 4 fois. Mes regards lui ont dit combien elle était aimable. Je suis né avec le plus tendre penchant pour elle. Et je suis bien sûr, mon cher Jacob, que mon amour date avant le tien. » Madame Rémy n'était pas présente à ce discours. Elle était passée dans la salle et nous avait laissé le soin de nous tirer d'intrigue. Pour moi, je n'avais plus de contenance et en vrai benêt, je saluais cet homme à chaque mot qu'il m'adressait. Tantôt, je tirais un pied, tantôt, j'inclinais la tête et ne savais plus ce que je faisais. J'étais démonté. Cette assommante époque de notre connaissance, son tutoiement, ce passage subit de l'état d'un homme en bonne fortune où il m'avait pris à l'état de Jacob où il me remettait, tout cela m'avait renversé. À l'égard de madame de Ferval, il serait difficile de vous dire la mine qu'elle faisait. Souvenez-vous que la Rémy avait parlé de moi comme d'un neveu de cette dame. Songez qu'elle était dévote, que j'étais jeune, que sa parure était ce jour-là plus mondaine qu'à l'ordinaire, son corset plus galant, moins serré, et par conséquent sa gorge plus à l'aise. Songez qu'on nous trouvait enfermés chez une madame Rémy, femme commode, sujette à prêter sa maison comme nous l'apprenions. N'oubliez pas que ce chevalier qui nous surprenait connaissait madame de Ferval, était ami de ses amis, et sur tous ces articles que je viens de dire, voyez la curieuse révélation qu'on avait des mœurs de madame de Ferval. Le bel intérieur de conscience a montré que de misères mises au jour, et quelle misère encore de celle qui déshonore le plus une dévote qui décide qu'elle est une hypocrite, une franche friponne. Car qu'elle soit maligne, vindicative, orgueilleuse, médisante, elle fait sa charge et n'en a pas moins droit de tenir sa morgue. Tout cela ne jure point avec l'impérieuse austérité de son métier. Mais se trouver convaincue d'être amoureuse, être surprise dans un rendez-vous gaillard, oh, tout est perdu, voilà la dévote sifflée, il n'y a point de tournure à donner à cela. » Madame de Ferval essaya pourtant d'en donner une et dit quelque chose pour se défendre. Mais ce fut avec un air de confusion si marqué qu'on voyait bien que sa cause lui paraissait désespérée. Aussi n'eut-elle pas le courage de la plaider longtemps. « Vous vous trompez, monsieur, je vous assure que vous vous trompez. » C'est fort innocemment que je me trouve ici. Je n'y suis que pour lui parler à l'occasion d'un service que je voulais lui rendre. » Après ce peu de paroles, le ton de sa voix s'altéra, ses yeux se mouillèrent de quelques larmes et un soupir lui coupa la parole. De mon côté, je ne savais que dire. Ce nom de Jacob qu'il m'avait rappelé me tenait en respect, j'avais toujours peur qu'il n'en recommençât l'apostrophe. Et je ne songeais qu'à m'évader du mieux qu'il me serait possible. Car que faire là avec un rival pour qui on ne s'appelle que Jacob, et cela en présence d'une femme que cet excès de familiarité n'humiliait pas moins que moi. Avoir un amant, c'était déjà une honte pour elle, et en avoir un de ce nom-là, c'en était 2. Il ne pouvait pas être question entre elle et Jacob d'une affaire de cœur bien délicate. De sorte qu'avec l'embarras personnel où je me trouvais, je rougissais encore de voir que j'étais son opprobre, et ainsi, je devais être fort mal à mon aise. Je cherchais donc un prétexte raisonnable de retraite, quand madame de Ferval vint à dire qu'elle n'était là que pour me rendre un service. Et sur le champ, sans donner le temps au cavalier de répondre, « Ce sera pour une autre fois, madame, repris-je. Conservez-moi toujours votre bonne volonté. J'attendrai que vous me fassiez savoir vos intentions. Et puisque vous connaissez monsieur et que monsieur vous connaît, je vais prendre congé de vous. » Aussi bien je n'entends rien à cet amour dont il me parle. » Madame de Ferval ne répondit mot et resta les yeux baissés, avec un visage humble et mortifié, sur lequel on voyait couler une larme ou 2. Ce cavalier, notre trouble fête, venait de lui reprendre la main qu'elle lui laissait, parce qu'elle n'osait la lui ôter sans doute. Le fripon était comme l'arbitre de son sort, il pouvait lui faire justice ou grâce. En un mot, il avait droit d'être un peu hardi et elle n'avait pas le droit de le trouver mauvais. « Adieu donc, monsieur Jacob, jusqu'au revoir » me cria-t-il comme je me retirais. Oh, pour lors, cela me déplut, je perdis patience et devenu plus courageux parce que je m'en allais. « Bon, bon » criai-je à mon tour en hochant la tête. « Adieu, monsieur Jacob ? Eh bien, adieu, monsieur Pierre, serviteur à monsieur Nicolas. Voilà bien du bruit pour un nom de baptême. » Il fit un grand éclat de rire à ma réponse et je sortis en fermant la porte sur eux de pure colère. Je trouvai Madame Rémy à la porte de la rue. « Vous vous en allez donc ? » me dit-elle. « Et pardi, oui, repris-je. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là à cette heure que cet homme y est ? Et pourquoi l'avez-vous accoutumé à venir ici ?»« Cela est bien désagréable, Madame Rémy. On vient de Versailles pour se parler honnêtement chez vous. On prend votre chambre, on croit être en repos, et point du tout, c'est comme si on était dans la rue. C'est bien la peine de me presser tant. Ce n'est pas moi que je regarde là-dedans, c'est Madame de Ferval. Qu'est-ce que ce grand je ne sais qui va penser d'elle ? Une porte fermée, point de clé à une serrure, une femme de bien avec un jeune garçon, voilà qui a bonne mine. « Eh mon Dieu, mon enfant, me dit-elle, je suis désolée, je tenais la clé de votre chambre quand il est arrivé. Savez-vous bien qu'il me l'a arraché des mains ? Il n'y a rien à craindre au surplus, c'est un de mes amis, un fort honnête homme qui voit quelquefois ici une dame de ma connaissance. Je crois entre nous qu'il ne la hait pas et l'étourdi qu'il est a voulu entrer par jalousie. Mais qu'est-ce que cela fait ? Restez, je suis sûr qu'il va sortir. » « Bon, lui dis-je, après celui-là, un autre. Vous avez trop de connaissances, Madame Rémy. »« Oh, dame, reprit-elle, que voulez-vous ? J'ai une grande maison, je suis veuve, je suis seule. D'honnêtes gens me disent, nous avons des affaires ensemble, il ne faut pas qu'on le sache, prêtez-nous votre chambre. Dirais-je que non, surtout à des gens qui me font plaisir, qui ont de l'amitié pour moi. C'est encore un beau taudis que le mien pour en être chiche, n'est-ce pas ? Après cela, quel mal y a-t-il qu'on ait vu Madame de Ferval avec vous chez moi ? Je me repens de n'avoir pas ouvert tout d'un coup, car qu'est-ce qu'on en peut dire ? Voyons, d'abord il me vient une dame, ensuite arrive un garçon, je les reçois tous deux, les voilà donc ensemble, à moins que je ne les sépare. Le garçon est jeune, mais est-il obligé d'être vieux ? Il est vrai que la porte était fermée. Eh bien, une autre fois, elle sera ouverte. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre, où est le mystère ? On l'ouvre quand on entre, on la ferme quand on est entré. Pour ce qui est de moi, si je n'étais pas avec vous, c'est que j'étais ailleurs. On ne peut pas être partout. Je vas, je viens, je tracasse, je fais mon ménage et ma compagnie cause. Et puis, est-ce que je ne serais pas revenu ? De quoi Madame de Ferval s'embarrasse-t-elle ? N'ai-je pas dit même que c'était votre tante ? Ah, vraiment, tant pis, repris-je, car il sait tout le contraire. Pardi, me dit-elle, le voilà bien savant. N'avez-vous pas peur qu'il vous fasse un procès ? Pendant que la Rémy me parlait, je songeais à ces deux personnes que j'avais laissées dans la chambre, et quoique je fusse bien aise d'en être sorti à cause de ce nom de Jacob, j'étais pourtant très fâché de ce qu'on avait troublé mon entretien avec Madame de Ferval. J'en regrettais la suite. Non pas que j'eusse de la tendresse pour elle, je n'en avais jamais eu, quoiqu'il m'eût semblé que j'en avais. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Ce jour-là même, je ne m'étais pas senti fort empressé en venant au faubourg. La rencontre de cette jeune femme à Versailles avait extrêmement diminué de mon ardeur pour le rendez-vous. Mais Madame de Ferval était une femme de conséquence, qui était encore très bien faite, qui était fort blanche, qui avait de belles mains, que j'avais vue négligemment couchée sur un sofa, qui m'y avait jeté d'amoureux regards. Et à mon âge, quand on a ces petites considérations dans l'esprit, on n'a pas besoin de tendresse pour aimer les gens et pour voir avec chagrin troubler un rendez-vous comme celui qu'on m'avait donné. Il y a bien des amours où le cœur n'a point de part, il y en a plus de ceux-là que d'autres mêmes, et dans le fond, c'est sur eux que roule la nature, et non pas sur nos délicatesses de sentiments qui ne lui servent de rien. C'est nous le plus souvent qui nous rendons tendres pour orner nos passions, mais c'est la nature qui nous rend amoureux. Nous tenons d'elle l'utile que nous enjolivons de l'honnête, j'appelle ainsi le sentiment. On enjolive pourtant plus guère. La mode en est passée dans le temps où j'écris. Quoi qu'il en soit, je n'avais qu'un amour fort naturel. Et comme cet amour-là a ses agitations, il me déplaisait beaucoup d'avoir été interrompu. Le cavalier lui a pris la main, il la lui a baisée sans façon, et ce drôle-là va devenir bien hardi de ce qu'il nous a surpris ensemble, disais-je en moi-même, car je comprenais à merveille l'abus qu'il pourrait faire de cela. Madame de Ferval, ci-devant, dévote, et maintenant reconnue pour très profane, pour une femme très légère de scrupules, ne pouvait plus se donner les airs d'être fière. Le gaillard m'avait paru aimable, il était grand et de bonne mine. Il y avait 4 mois, disait-il, qu'il aimait la dame. Il avait surpris le secret de ses mœurs. Peut-être se vengerait-il si on le rebutait. Peut-être se tairait-il si on le traitait avec douceur. Madame de Ferval était née douce. Il y avait ici des raisons pour l'être. Le serait-elle? Ne le serait-elle pas? Me voilà là-dessus dans une émotion que je ne puis exprimer. Me voilà remué par je ne sais quelle curiosité inquiète, jalouse, un peu libertine, si vous voulez. Enfin, très difficile à expliquer. Ce n'est pas du cœur d'une femme dont on est en peine, c'est de sa personne. On ne songe point à ses sentiments, mais à ses actions. On ne dit point « sera-t-elle infidèle ?» mais « sera-t-elle sage ?» Dans ces dispositions, je songeais que j'avais beaucoup d'argent sur moi, que la Rémy aimait à en gagner, et qu'une femme qui ne refusait pas de louer sa chambre pour 2 ou 3 heures, faudrait bien pour quelques moments me louer un cabinet ou quelque autre lieu attenant la chambre si elle en avait un. « Je suis d'avis de ne pas m'en aller, lui dis-je, et d'attendre que cet homme ait quitté Madame de Ferval. N'auriez-vous pas quelque endroit près de celui où ils sont et où je pourrais me tenir? Je ne vous demande pas ce plaisir-là pour rien, je vous paierai. » Et c'était en tirant de l'argent de ma poche que je lui parlais ainsi. « Oui, d'un, dit-elle en regardant un demi-louis d'or que je tenais. « Il y a justement un petit retranchement qui n'est séparé de la chambre que par une cloison et où je mets de vieilles hardes. Mais montez plutôt à mon grenier, vous y serez mieux. »« Non, non, lui dis-je, le retranchement me suffit. Je serai plus près de Madame de Ferval et quand l'autre la quittera, je le serai tout d'un coup. « Tenez, voilà ce que je vous offre. Le voulez-vous » ajoutai-je en lui présentant mon demi-louis. Non sans me reprocher un peu de le dépenser ainsi, car voyez quel infidèle emploi de l'argent de Madame de la Vallée. J'en étais honteux, mais je tâchais de n'y prendre pas garde, afin d'avoir moins de tort. « Hélas, il ne fallait pas rien pour cela, » me dit la Rémy en recevant ce que je lui donnais. « C'est une bonté que vous avez et je vous en suis obligé. Venez, je vais vous mener dans ce petit endroit, mais ne faites point de bruit au moins et marchez doucement en y allant. » Il n'est pas nécessaire que nos gens y entendent personne. Il semblerait qu'il y aurait du mystère. « Oh, ne craignez rien, lui dis-je, je n'y remuerai pas. » Et tout en parlant, nous revînmes dans la salle. Ensuite, elle poussa une porte qui n'était couverte que d'une mauvaise tapisserie et par où l'on entrait dans ce petit retranchement où je me mis. J'étais là, en effet, à peu près comme si j'avais été dans la chambre. Il n'y avait rien de si mince que les planches qui m'en séparaient, de sorte qu'on y pouvait respirer sans que je l'entendisse. Je fus pourtant bien 2 minutes sans pouvoir démêler ce que l'homme en question disait à Madame de Ferval, car c'était lui qui parlait, mais j'étais si agité dans ce premier mouvement, j'avais un si grand battement de cœur que je ne pus d'abord donner d'attention à rien. Je me méfiais un peu de Madame de Ferval, et ce qui est de plaisant, c'est que je m'en méfiais à cause que je lui avais plu. C'était cet amour dont elle s'était éprise en ma faveur qui, bien loin de me rassurer, m'apprenait à douter d'elle. Je prête donc attentivement l'oreille et on va voir une conversation qui n'est convenable qu'avec une femme qu'on n'estime point, mais qu'à force de galanterie, on apprivoise aux impertinences qu'on lui débite et qu'elle mérite. Il me sembla d'abord que Madame de Ferval soupirait. « De grâce, madame, asseyez-vous un instant, lui dit-il. « Je ne vous laisserai point dans l'état où vous êtes. Dites-moi de quoi vous pleurez, de quoi s'agit-il? Que craignez-vous de ma part et pourquoi me haïssez-vous, madame? Je ne vous hais point, monsieur, dit-elle en sanglotant un peu. Et si je pleure, ce n'est pas que j'ai rien à me reprocher, mais voici un accident bien malheureux pour moi, d'autant plus qu'il s'y trouve des circonstances où je n'ai point de part. Cette femme nous avait enfermés, je ne le savais pas. Elle vous a dit que ce jeune homme était mon neveu, elle a parlé de son chef, et dans la surprise où j'en étais moi-même, je n'ai pas eu le temps de l'en dédire. Je ne sais pas la finesse qu'elle y a entendue, et tout cela retombe sur moi pourtant. Il n'y a rien que vous ne puissiez en imaginer et en dire, et voilà pourquoi je pleure. « Oui, madame, reprit-il, je conviens qu'avec un homme, son caractère et son probité, vous auriez raison de pleurer, et que cette aventure-ci pourrait vous faire un grand tort, surtout à vous qui vivez plus retiré qu'une autre. Mais, madame, commencez par croire qu'une action dont vous n'auriez pour témoin que vous-même ne serait pas plus ignorée que le sera cet événement-ci avec un témoin comme moi. Ayez donc l'esprit en repos de ce côté-là. Soyez aussi tranquille que vous l'étiez avant que je vinsse. puisqu'il n'y a que moi qui vous ai vu. C'est comme si vous n'aviez été vu de personne. Il n'y a qu'un méchant qui pourrait parler, et je ne le suis point. Je ne serais pas tenté de l'être avec mon plus grand ennemi. Vous avez affaire à un honnête homme, à un homme incapable d'une lâcheté, et c'en serait une indigne affreuse que celle de vous trahir dans cette occasion-ci. « Voilà qui est fini, monsieur. Vous me rassurez, » répondit madame de Ferval. « Vous dites que vous êtes un honnête homme, et il est vrai que vous paraissez l'être. Quoique je vous connaisse fort peu, je l'ai toujours pensé de même. Les gens chez qui nous nous sommes vus vous le diraient, et il ne faudrait compter sur la physionomie de personne si vous me trompiez. Au reste, monsieur, en gardant le silence, non seulement vous satisferez à la probité qu'il exige, mais vous rendrez encore justice à mon innocence. Il n'y a ici que les apparences contre moi. Soyez-en persuadé, je vous prie. » « Ah, madame, reprit-il alors, vous vous méfiez encore de moi, puisque vous songez à vous justifier, et de grâce, un peu plus de confiance. J'ai intérêt de vous en inspirer, ce serait autant de gagner sur votre cœur, et vous en seriez moins éloigné d'avoir quelque retour pour moi. »« Du retour pour vous, » dit-elle avec un ton d'affliction, « vous me tenez là un terrible discours. Il est bien dur pour moi d'y être exposé. Vous me l'auriez épargné en tout autre temps. » Mais vous croyez qu'il vous est permis de tout dire dans la situation où je me trouve, et vous abusez des raisons que j'ai de vous ménager, je le vois bien. Par parenthèse, n'oubliez pas que j'étais là, et qu'en entendant parler ainsi madame de Ferval, je me sentais insensiblement changé pour elle, que ma façon de l'aimer s'ennoblissait, pour ainsi dire, et devenait digne de la sagesse qu'elle montrait. « Non, madame, ne me ménagez point, s'écria-t-il, rien ne vous y engage. Ma discrétion dans cette affaire-ci est une chose à part, elle me regarde encore plus que vous, je me déshonorerais si je parlais. Quoi, vous croyez qu'il faut que vous achetiez mon silence? En vérité, vous me faites injure. Non, madame, je vous le répète, quelle que soit la façon dont vous me traitiez, il importe pour le secret de votre aventure, et si dans ce moment-ci vous voulez que je m'en aille, si je vous déplais, je pars. « Non, monsieur, ce n'est pas là ce que je veux dire, » reprit-elle. « Le reproche que je vous fais ne signifie pas que vous me déplaisez. Ce n'est pas même votre amour qui me fait de la peine. On est libre d'en avoir pour qui l'on veut. Une femme ne saurait empêcher qu'on en ait pour elle, et celui d'un homme comme vous est plus supportable que celui d'un autre. J'aurais seulement souhaité que le vôtre eût paru dans une autre occasion, parce que je n'aurais pas eu lieu de penser que vous tirez une sorte d'avantage de ce qui m'arrive. » Tout injuste qu'il serait de vous en prévaloir, car assurément il n'y aurait rien de si injuste, vous ne voulez pas le croire, mais je vous dis vrai. « Ah, que je serais fâché que vous disiez vrai, madame, » reprit-il vivement. « De quoi est-il question? D'avoir eu quelque goût pour ce jeune homme? Ah, que vous êtes aimable, faites comme vous êtes, d'avoir encore le mérite d'être un peu sensible. » « Mais non, monsieur, lui dit-elle, ne le croyez point, il ne s'agit point de cela, je vous jure. » Il me sembla qu'alors il se jetait à ses genoux, et que l'interrompant, « Cessez de vouloir me désabuser, lui dit-il. Avec qui vous justifiez-vous? Suis-je d'un âge et d'un caractère à vous faire un crime de votre rendez-vous? Pensez-vous que je vous en estime moins parce que vous êtes capable de ce qu'on appelle une faiblesse? Et tout ce que j'en conclus, au contraire, c'est que vous avez le cœur meilleur qu'une autre. Plus on a de sensibilité, plus on a l'âme généreuse et par conséquent estimable. » Vous n'en êtes que plus charmante en tous sens, c'est une grâce de plus dans votre sexe que d'en être susceptible de ces faiblesses-là. » Petite morale, bonne à débiter chez madame Rémy, mais il fallait bien dorer la pilule. « Vous m'avez touché dès la première fois que je vous ai vu, continua-t-il, vous le savez, je vous regardais avec un plaisir infini, vous vous en êtes aperçu, j'ai lu plus d'une fois dans vos yeux que vous m'entendiez, avouez-le, madame. » « Il est vrai, dit-elle d'un ton plus calme, que je soupçonnais quelque chose. Et moi, je soupçonnais à ces deux petits mots que je redeviendrais ce que j'avais été pour elle. « Oui, je vous aimais, » ajouta-t-il, « toute triste, toute solitaire, toute ennemie du commerce des hommes que je vous croyais. Et ce n'est point cela. Je me trompais. Madame de Ferval est née tendre, est née sensible. Elle peut elle-même se prendre de goût pour qui l'aimera. Elle en a eu pour ce jeune homme. Il ne serait donc pas impossible qu'elle en eût pour moi, qui la cherche et qui la prévient. Peut-être en avait-elle avant que ceci arrivât, et en ce cas, pourquoi me le cacheriez-vous, ou pourquoi n'en auriez-vous plus? Qu'ai-je fait pour être puni? Qu'avez-vous fait pour être obligé de dissimuler? De quoi rougiriez-vous? Où est le tort que vous avez? Dépendez-vous de quelqu'un? Avez-vous un mari? N'êtes-vous pas veuve et votre maîtresse? Y a-t-il rien à redire à votre conduite? N'avez-vous pas pris, dans cette occasion-ci, les mesures les plus sages? Et faut-il vous désespérer, vous imaginer que tout est perdu, parce que le hasard m'amène ici? Moi, que vous pouvez traiter comme vous voudrez. Moi, qui suis homme d'honneur et raisonnable. Moi, qui vous adore et que vous ne haïrez peut-être pas, si vous ne vous alarmiez point d'une chose qui n'est rien, précisément rien, et dont il n'y a rien qu'à rire dans le fond, si vous m'estimez un peu. Ah, dit ici madame de Fervaques, avec un soupir qui faisait espérer un accommodement, que vous m'embarrassez, monsieur le chevalier. Je ne sais que vous répondre. Car il n'y a pas moyen de vous ôter vos idées, et vous êtes un étrange homme de vous mettre dans l'esprit que j'ai jeté les yeux sur ce garçon. Notez qu'ici mon cœur se retire et ne se mêle plus d'elle. Eh bien, soit, il n'en est rien, reprit-il. D'où vient que je vous en parle? Ce n'est que pour faciliter nos entretiens, pour abréger les longueurs. Tout ce que cet événement-ci peut avoir d'heureux pour moi, c'est que si vous le voulez, il nous met tout d'un coup en état de nous parler avec franchise. Sans cette aventure, il aurait fallu que je soupirasse longtemps avant que de vous mettre en droit de m'écouter ou de me dire le moindre mot favorable, au lieu qu'à présent, nous voilà tout portés, il n'y a plus que votre goût qui décide, et puisqu'on peut vous plaire et que je vous aime, à quoi dois-je m'attendre? Que ferez-vous de moi? Prononcez, madame. Que ne dites-vous cela ailleurs? Répondit-elle. Cette circonstance-ci me décourage. Je m'imagine toujours que vous en profitez, et je voudrais que vous n'eussiez ici pour vous que mes dispositions. « Vos dispositions ? » s'écria-t-il pendant que j'étais indigné dans ma niche. « Ah, madame, suivez-les, ne les contraignez pas, vous me mettez au comble de la joie. Suivez-les, et si malgré tout ce que je vous ai dit, vous me craignez encore, si ma parole ne vous a pas tout à fait rassuré, eh bien qu'importe, oui, craignez-moi, doutez de ma discrétion, j'y consens, je vous passe cette injure, pourvu qu'elles servent à hâter ces dispositions dont vous me parlez et qui me ravissent. Oui, madame, il faut me ménager. Vous ferez bien, j'ai envie de vous le dire moi-même, je sens qu'à force d'amour on peut manquer de délicatesse. Je vous aime tant que je n'ai pas la force de refuser ce petit secours contre vous. Je n'en aurais pas pourtant besoin si vous me connaissiez, et je devrais tout à l'amour. Oubliez donc que nous sommes ici. Songez que vous m'auriez aimé tôt ou tard, puisque vous y étiez disposé, et que je n'aurais rien négligé pour cela. Je ne m'en défends point, dit-elle. Je vous distinguais. J'ai plus d'une fois demandé de vos nouvelles. Eh bien, dit-il avec feu, louons-nous donc de cette aventure. Il n'y a point à hésiter, madame. Quand je songe, répondit-elle, que c'est un engagement qu'il s'agit de prendre, un engagement chevalier, cela me fait peur. Pensez de moi comme il vous plaira. Quelles que soient vos idées, je ne les combats plus. Mais il n'en est pas moins vrai que la vie que je mène est bien éloignée de ce que vous me demandez. Et puisqu'enfin il faut tout dire, savez-vous bien que je vous fuyais, que je me suis plus d'une fois abstenu d'aller chez les gens chez qui je vous rencontrais? Je n'y ai pourtant encore été que trop souvent. Quoi, dit-il, vous me fuyez, pendant que je vous cherchais, vous me l'avouez, et je ne profiterai pas du hasard qui m'en venge, et je vous laisserai la liberté de me fuir encore. Non, madame, je ne vous quitte point que je ne sois sûr de votre cœur et qu'il ne m'ait mis à l'abri de cette cruauté-là. Non, vous ne m'échapperez plus. Je vous adore. Il faut que vous m'aimiez. Il faut que vous me le disiez, que je le sache, que je n'en puisse douter. Ah, quelle impétuosité, s'écria-t-elle, comme il me persécute. Ah, chevalier, quel tyran vous êtes, et que je suis imprudente de vous en avoir tant dit. Et, répondit-il avec douceur, qu'est-ce qui vous arrête? Qu'a-t-il donc de si terrible pour vous, cet engagement que vous redoutez tant? Ce serait à moi à le craindre. Ce n'est pas vous qui risquez de voir finir mon amour. Vous êtes trop aimable pour cela. C'est moi qui le suis mille fois moins que vous, et qui par là suis exposé à la douleur de voir finir le vôtre, sans qu'il y ait de votre faute, et que je puisse m'en plaindre. Mais n'importe, ne m'émassiez-vous qu'un jour, ces beaux yeux noirs qui m'enchantent ne dussent-ils jeter sur moi qu'un seul regard un peu tendre, je me croirais encore trop heureux. Et moi qui l'écoutais, vous ne sauriez vous figurer de quelle beauté je les trouvais dans ma colère, ces beaux yeux noirs dont il faisait l'éloge. C'est bien à vous vraiment à parler de fidélité, lui dit-elle. M'aimeriez-vous aujourd'hui si vous n'étiez pas un inconstant? N'était-ce pas une autre que moi que vous cherchiez ici? Je ne vous demanderai point qui elle est, vous êtes trop honnête homme pour me le dire, et je ne dois pas le savoir, mais je suis persuadé qu'elle est aimable, et vous la quittez pourtant. Cela est-il de bon augure pour moi? que vous vous rendez peu de justice. Et quelle comparaison vous faites ? Répondit-il. Y avait-il 6 mois que je vous voyais avant que je vous aimasse ? Quelle différence entre une personne qu'on aime parce qu'on ne saurait faire autrement, parce qu'on est né avec un penchant naturel et invincible pour elle, c'est de vous que je parle, et une femme à qui on ne s'arrête que parce qu'il faut faire quelque chose, que parce que c'est une de ces coquettes qui s'avise de s'adresser à vous, qui ne saurait se passer d'amant, à qui on parle d'amour sans qu'on les aime, qui s'imagine vous aimer elle-même seulement parce qu'elle vous le dise, et qui s'engage avec vous par oisiveté, par caprice, par vanité, par étourderie, par un goût passager que je n'oserais vous expliquer et qui ne mérite pas que je vous en entretienne, enfin, par tout ce qui vous plaira. Quelle différence, encore une fois, entre une aussi fade, aussi languissante, aussi peu digne liaison et la vérité des sentiments que j'ai pris pour vous dès que je vous ai vu, dont je me serais fort bien passé et que j'ai gardé contre toute apparence de succès. Distinguons les choses, je vous prie, ne confondons point un simple abusement avec une inclination sérieuse, et laissons là cette chicane. » Je me lasse de dire que Madame de Ferval soupira. Elle fit pourtant encore un soupir, et ici, et il est vrai que chez les femmes, ces situations-là en fourmillent de faux ou de véritables. « Que vous êtes pressant, chevalier, dit-elle après. Je conviens que vous êtes aimable et que vous ne l'êtes que trop. N'est-ce pas assez ? Faut-il encore vous dire qu'on pourra vous aimer ? À quoi cela ressemblera-t-il ? Ne soupçonnerez-vous pas vous-même que vous ne devez ce que je vous dis d'obligeant qu'à mon aventure ? Encore, si j'avais été prévenu de cet amour-là, ce que j'y répondrais aujourd'hui aurait meilleure grâce, et vous m'en seriez plus de gré aussi. Mais s'entendre dire qu'on est aimé, avouer sur le champ qu'on le veut bien, et tout cela dans l'espace d'une demi-heure, en vérité, il n'y a rien de pareil. Je crois qu'il faudrait un petit intervalle et vous n'y perdriez point, chevalier. Et madame, vous n'y songez pas, reprit-il. Souvenez-vous donc qu'il y a 4 mois que je vous aime, que mes yeux vous en entretiennent, que vous y prenez garde, et que vous me distinguez, dites-vous. 4 mois. Les bienséances ne sont-elles pas satisfaites? Et de grâce, plus de scrupules. Vous baissez les yeux, vous rougissez, et peut-être ne supposait-il le dernier que pour lui faire honneur. M'aimez-vous un peu? Voulez-vous que je le croie? Le voulez-vous? Oui, n'est-ce pas ? Encore un mot pour plus de sûreté. Quel enchanteur vous êtes, répondit-elle. Voilà qui est étonnant. J'en suis honteuse. Non, il n'y a rien d'impossible après ce qui m'arrive. Je pense que je vous aimerai. Et pourquoi me remettre, dit-il, et ne pas m'aimer tout à l'heure ? Mais, chevalier, ajouta-t-elle, vous qui parlez, ne me trompez-vous pas. M'aimez-vous vous-même autant que vous le dites ? N'êtes-vous pas un fripon ? Vous êtes si aimable que j'en ai peur et j'hésite. « Ah, nous y voilà » m'écriai-je involontairement, sans savoir que je parlais haut, et emporté par le ton avec lequel elle prononça ses dernières paroles, aussi était-ce un ton qui accordait ce qu'elle lui disputait encore un peu dans ses expressions. Le bruit que je fis me surprit moi-même, et aussitôt je me hâtai de sortir de mon retranchement pour m'esquiver. En me sauvant, j'entendis Madame de Fervalles qui criait à son tour « Ah, monsieur le chevalier, c'est lui qui nous écoute !» Le chevalier sortit de la chambre. Il fut longtemps à ouvrir la porte, et puis « Qu'est-ce qui est là ? » dit-il. Mais j'allais si vite que j'étais déjà dans l'allée quand il m'aperçut. Là, Rémy filait, je pense, à la porte de la rue, et voyant que je me retirais avec précipitation, « Qu'est-ce que c'est donc que cela ? » me dit-elle. « Qu'avez-vous fait ? » ?»« Vos 2 locataires, vous le diront, » lui répondis-je brusquement et sans la regarder, et puis je marchais dans la rue d'un pas ordinaire. Si je me sauvais au reste, ce n'est pas que je craignisse le chevalier, ce n'était que pour éviter une scène qui serait sans doute arrivée avec Jacob, car s'il ne m'avait pas connu, si j'avais pu figurer comme monsieur de la vallée, il est certain que je serais resté et qu'il n'aurait pas même été question de retranchement où je m'étais mis. Mais s'il n'y avait que 4 ou 5 mois qu'il m'avait vu Jacob, le moyen de tenir tête à un homme qui avait cet avantage-là sur moi, ma métamorphose était de trop fraîche date, il y a de certaines hardiesses que l'homme qui est né avec du cœur ne saurait avoir. Et quoiqu'elles ne soient peut-être pas des insolences, il faut pourtant, je crois, être né insolent pour en être incapable. Quoi qu'il en soit, ce ne fut pas manque d'orgueil que je pliai dans cette occasion-ci, mais mon orgueil avait de la pudeur, et voilà pourquoi il ne tint pas. Me voici donc sorti de chez la Rémy avec beaucoup de mépris pour Madame de Ferval, mais avec beaucoup d'estime pour sa figure, et il n'y a rien là d'étonnant. Il n'est pas rare qu'une maîtresse coupable en devienne plus piquante. Vous croyez à présent que je poursuis mon chemin et que je retourne chez moi? Point du tout. Une nouvelle inquiétude me prend. Voyons ce qu'ils deviendront, dis-je en moi-même, à présent que je les ai interrompus. Je les ai quittés bien avancés. Quel parti prendra-t-elle cette femme? Aura-t-elle le courage de demeurer? Et là-dessus, j'entre dans l'allée d'une maison éloignée de 50 pas de celle de la Rémy, et qui était vis-à-vis la petite rue où Madame de Ferval avait laissé son carrosse. Je me tapis là d'où je jetais les yeux tantôt sur cette petite rue, tantôt sur la porte par où je venais de sortir, toujours le cœur ému, mais ému d'une manière plus pénible que chez la Rémy, où j'entendais du moins ce qui se passait, et entendais si bien que c'était presque voir, ce qui faisait que je savais à quoi m'en tenir. Mais je ne fus pas longtemps en peine, et je n'avais pas attendu 4 minutes quand je vis Madame de Ferval sortir de la porte du jardin et rentrer dans son carrosse, après quoi parut de l'autre côté mon homme qui entra dans le sien et que je vis passer, ce qui me calma sur le champ. Tout ce qui me resta pour Madame de Ferval, ce fut ce qu'ordinairement on appelle un goût, mais un goût tranquille et qui ne m'agita plus. C'est-à-dire que si on m'avait laissé en ce moment le choix des femmes, ça aurait été à elle à qui j'aurais donné la préférence. Vous jugez bien que tout ceci rompait notre commerce. Elle ne devait pas elle-même souhaiter de me revoir, instruit comme je l'étais de son caractère. Aussi ne songeais-je pas à aller chez elle. Il était encore de bonne heure. Madame de Fécourt m'avait recommandé de lui donner au plus tôt des nouvelles de mon voyage de Versailles et je pris le chemin de sa maison avant que de retourner chez moi. J'y arrive. Il n'y avait aucun de ces gens dans la cour, ils étaient apparemment dispersés. Je ne vis pas même le portier, pas une femme en haut. Je traversai tout son appartement sans rencontrer personne, et je parvins jusqu'à une chambre dans laquelle j'entendais ou parler ou lire, car c'était une continuité de ton qui ressemblait plus à une lecture qu'à un langage de conversation. La porte n'était que poussée, je ne pensais pas que ce fût la peine de frapper à une porte à demi ouverte, et j'entrai tout de suite à cause de la commodité. J'avais soupçonné juste, on lisait au chevet du lit de Madame de Fécourt qui était couchée. Il y avait une vieille femme de chambre assise au pied de son lit, un laquais debout auprès de la fenêtre, et c'était une grande dame, laide, maigre, d'une physionomie sèche, sévère et critique, qui lisait. « Ah, mon Dieu, » dit-elle en pigrièche et s'interrompant quand je fus entré, « est-ce que vous n'avez pas fermé cette porte, vous autres? Il n'y a donc personne là-bas pour empêcher de monter? Ma sœur est-elle en état de voir du monde ?» Le compliment n'était pas doux, mais il s'ajustait à merveille à l'air de la personne qui le prononçait. Sa mine et son accueil étaient faits pour aller ensemble. Elle n'avait pourtant pas l'air d'une dévote, celle-là, et comme je l'ai connue depuis, j'ai envie de vous dire en passant à quoi elle ressemblait. Imaginez-vous de ces laides femmes qui ont bien senti qu'elles seraient négligées dans le monde, qu'elles auraient la mortification de voir plaire les autres et de ne plaire jamais, et qui, pour éviter cet affront-là, pour empêcher qu'on ne voie la vraie cause de l'abandon où elles resteront, disent en elles-mêmes, sans songer à Dieu ni à ses saints, « Distinguons-nous par des mœurs austères, prenons une figure inaccessible, affectons une fière régularité de conduite, afin qu'on se persuade que c'est ma sagesse et non pas mon visage qui fait qu'on ne me dit mot. » Et effectivement, cela réussit quelquefois, et la dame en question passait pour une femme hérissée de cette espèce de sagesse-là. Comme elle m'avait déplu dès le premier coup d'œil, son discours ne me démonta point. Il me parut convenable, et sans faire d'attention à elle, je saluai Madame de Fécourt qui me dit « Ah, c'est vous, monsieur de la Vallée, approchez, approchez. Ne querellez point, ma sœur, il n'y a point de mal, je suis bien aise de le voir. » « Et mon Dieu, madame, lui répondis-je, comme vous voilà, je vous quittais hier en si bonne santé. » « Cela est vrai, mon enfant, reprit-elle assez bas, on ne pouvait pas se mieux porter. J'allais même souper en compagnie où je mangeais beaucoup et de fort bon appétit. J'ai pourtant pensé mourir cette nuit d'une colique si violente qu'on a cru qu'elle m'emporterait et qui m'a laissé la fièvre avec des accidents très dangereux, dit-on. J'étouffe de temps en temps et on est d'avis de me faire confesser ce soir. Il faut bien que la chose soit sérieuse et voilà ma sœur qui, heureusement pour moi, arriva hier de la campagne et qui avait tout à l'heure la bonté de me lire un chapitre de l'Imitation. Cela est fort beau. « Eh bien, monsieur de la Vallée, contez-moi votre voyage. Êtes-vous content de monsieur de Fécourt ? Voici un accident qui vient fort mal à propos pour vous, car je l'aurai pressé. Que vous a-t-il dit ? J'ai tant de peine à respirer que je ne saurais plus parler. Aurez-vous un emploi ? C'est pour Paris que je l'ai demandé. » « Et ma sœur, lui dit l'autre, tenez-vous en repos. Et vous, monsieur, ajouta-t-elle en m'adressant la parole, allez-vous-en, je vous prie. » Vous voyez bien qu'il s'agit d'autre chose ici que de vos affaires, et il ne fallait pas entrer sans savoir si vous le pouviez. » Doucement, dit la malade en respirant à plusieurs reprises, et pendant que je faisais la révérence pour m'en aller, doucement, il ne savait pas comment j'étais, le pauvre garçon. Adieu donc, monsieur de la Vallée. Hélas, c'est lui qui se porte bien. Voyez qu'il a l'air frais, mais il n'a que 20 ans. Adieu, adieu, nous nous reverrons, ceci ne sera rien, je l'espère. « Et moi, madame, je le souhaite de tout mon cœur, lui dis-je, en me retirant et ne saluant qu'elle. Aussi bien l'autre, à vue de pays, eût-elle reçu ma révérence en ingrate, et je sortis pour aller chez moi. » Remarquez, chemin faisant, l'inconstance des choses de ce monde. La veille, j'avais 2 maîtresses, ou si vous voulez, 2 amoureuses. Le mot de maîtresse signifie trop ici. Communément, il veut dire une femme qui a donné son cœur et qui veut le vôtre. Et les 2 personnes dont je parle ne m'avaient, je pense, ni donné le leur, ni ne s'étaient souciées d'avoir le mien, qui ne s'était pas non plus soucié d'elle. Je dis les 2 personnes, car je crois pouvoir compter Madame de Fécourt et la joindre à Madame de Ferval, et en 24 heures de temps, en voilà une qu'on me souffle, que je perds en la tenant, et l'autre qui se meurt, car Madame de Fécourt m'avait paru mourante. Et, supposant qu'elle en réchappât, nous allions être quelque temps sans nous voir. Son amour n'était qu'une fantaisie, les fantaisies se passent, et puis n'y avait-il que moi de gros garçon à Paris qui fût joli et qui n'eut que 20 ans. C'en était donc fait de ce côté-là, suivant toute apparence, et je ne m'en embarrassais guère. La Fécourt, avec son énorme gorge, m'était fort indifférente. Il n'y avait que cette hypocrite de Ferval qui m'eût un peu remué. Elle avait des grâces naturelles, par-dessus cela, elle était fausse dévote. Et ces femmes-là, en fait d'amour, ont quelque chose de plus piquant que les autres. Il y a dans leur façon, je ne sais quel mélange indéfinissable de mystère, de fourberie, d'avidité libertine et solitaire, et en même temps de retenue qui tente extrêmement. Vous sentez qu'elles voudraient jouir furtivement du plaisir de vous aimer et d'être aimées, sans que vous y prissiez garde, ou qu'elles voudraient du moins vous persuader que dans tout ce qui se passe, elles sont vos dupes et non pas vos complices. Revenons, je m'en retourne enfin chez moi, je vais retrouver Madame de la Vallée qui m'aimait tant et que toutes mes dissipations n'empêchaient pas que je n'aimasse, et à cause de ses agréments, car elle en avait, et à cause de cette pieuse tendresse qu'elle avait pour moi. Je crois pourtant que je l'aurais aimée davantage si je n'avais été que son amant, j'appelle aimée d'amour. Mais quand on a d'aussi grandes obligations à une femme que je lui en avais, en vérité, ce n'est pas avec de l'amour qu'un bon cœur l'épaît. Il se pénètre de sentiments plus sérieux, il sent de l'amitié et de la reconnaissance. Aussi en étais-je plein, et je pense que l'amour en souffrait un peu. Quand je serais revenu du plus long voyage, Madame de la Vallée ne m'aurait pas revu avec plus de joie qu'elle en marqua. Je la trouvais priant Dieu pour mon heureux retour, et il n'y avait pas plus d'une heure à ce qu'elle me dit qu'elle était revenue de l'église où elle avait passé une partie de l'après-dînée, toujours à mon intention, car elle ne parlait plus à Dieu que de moi seul. Et à la vérité, c'était toujours lui parler pour elle dans un autre sens. Le motif de ses prières, quand j'y songe, devait pourtant être quelque chose de fort plaisant. Je suis sûr qu'il n'y en avait pas une où elle ne dit « Conservez-moi mon mari » ou bien « Je vous remercie de me l'avoir donné », ce qui, à le bien rendre, ne signifiait autre chose sinon « « Mon Dieu, conservez-moi les douceurs que vous m'avez procurées par le saint mariage » ou « Je vous rends mes actions de grâce de ces douceurs que je goûte en tout bien et tout honneur par votre sainte volonté dans l'état où vous m'avez mise. » Et jugez combien de pareilles prières étaient ferventes. Les dévots n'aiment jamais tant Dieu que lorsqu'ils en ont obtenu leur petite satisfaction temporelle. et jamais on ne prie mieux que quand l'esprit et la chair sont contents et prient ensemble. Il n'y a que lorsque la chair languit, souffre et n'a pas son compte, et qu'il faut que l'esprit soit dévot tout seul qu'on a de la peine. Mais Madame de la Vallée n'était pas dans ce cas-là. Elle n'avait rien à souhaiter, ses satisfactions étaient légitimes, elle pouvait en jouir en conscience, aussi sa dévotion en avait-elle augmenté de moitié, sans en être apparemment plus méritoire, puisque c'était le plaisir de posséder ce cher mari, ce gros brunet, comme elle m'appelait quelquefois, et non pas l'amour de Dieu, qui était l'âme de sa dévotion. Nous soupâmes chez notre hôtesse, qui, de la manière dont elle en agissait, me parut cordialement amoureuse de moi, sans qu'elle s'en aperçût elle-même peut-être. La bonne femme me trouvait à son gré et le témoignait tout de suite comme elle le sentait. « Oh, pour cela, Madame de la Vallée, il n'y a rien à dire. Vous avez pris là un mari de bonne mine, un gros dodu que tout le monde aimera. Moi, à qui il n'est rien, je l'aime de tout mon cœur, » disait-elle. Et puis, un moment après, « Vous ne devez pas avoir regret de vous être mariée si tard. Vous n'auriez pas mieux choisi il y a 20 ans au moins. » Et mille autres naïvetés de la même force qui ne divertissaient pas beaucoup Madame de la Vallée, surtout quand elle tombait sur ce mariage tardif et qu'elle la harcelait sur son âge. « Mais mon Dieu, madame, lui répondit-elle d'un ton doux et brusque, je conviens que j'ai bien choisi, je suis fort satisfaite de mon choix et très ravie qu'il vous plaise. Au surplus, je ne me suis pas mariée si tard. Que je ne me sois encore mariée fort à propos, ce me semble, on est fort bonne à marier à mon âge. N'est-ce pas, mon ami ? Ajouta-t-elle en mettant sa main dans la mienne et en me regardant avec des yeux qui me disaient confidemment « Tu m'as paru content. » « Comment donc, ma chère femme, si vous êtes bonne, répondais-je. Et à quel âge est-on meilleur et plus ragoûtante, s'il vous plaît ? » Là-dessus, elle souriait, me serrait la main et finissait par demander presque en soupirant « Quelle heure est-il ?» pour savoir s'il n'était pas temps de sortir de table, c'était là son refrain. Quant à l'autre petite personne, la fille de Madame d'Alin, je la voyais qui, d'un coup de l'œil, observait notre chaste amour et qui ne le voyait pas, je pense, d'un regard aussi innocent qu'il l'était. Agathe avait le bras et la main passables et je remarquai que la friponne jouait d'industrie pour les mettre en vue le plus qu'elle pouvait, comme si elle avait voulu me dire « Regardez, votre femme a-t-elle rien qui vaille cela ?» C'est pour la dernière fois que je fais ces sortes de détails. À l'égard d'Agathe, je pourrais en parler encore, mais de ma façon de vivre avec Madame de la Vallée, je n'en dirai plus mot. On est suffisamment instruit de son caractère et de ses tendresses pour moi. Nous voilà mariés, je sais tout ce que je lui dois, j'irai toujours au-devant de ce qui pourra lui faire plaisir. Je suis dans la fleur de mon âge, elle est encore fraîche malgré le sien, et quand elle ne le serait pas, la reconnaissance dans un jeune homme qui a des sentiments peut suppléer à bien des choses. Elle a de grandes ressources. D'ailleurs, Madame de la Vallée m'aime avec une passion dont la singularité lui tiendrait lieu d'agrément si elle en manquait. Son cœur se livre à moi dans un goût dévot qui me réveille. Madame de la Vallée, toute tendre qu'elle est, n'est point jalouse. Je n'ai point de compte importun à lui rendre de mes actions qui jusqu'ici, comme vous voyez, n'ont déjà été que trop infidèles et qui n'en font point espérer sitôt de plus régler. Suis-je absent ? Madame de la Vallée souhaite ardemment mon retour, mais elle attend en paix. Me revoit-elle ? Point de question, la voilà charmée, pourvu que je l'aime, et je l'aimerai. Qu'on s'imagine donc de ma part toutes les attentions possibles pour elle, qu'on suppose entre nous le ménage le plus doux et le plus tranquille, tel sera le nôtre, et je ne ferai plus mention d'elle que dans les choses où par hasard elle se trouvera mêlée. Hélas, bientôt ne sera-t-elle plus de rien dans tout ce qui me regarde. Le moment qui doit me l'enlever n'est pas loin, et je ne serai pas longtemps sans revenir à elle pour faire le récit de sa mort et celui de la douleur que j'en eus. Vous n'aurez pas oublié que M. Bonneau nous avait dit ce jour-là à la jeune dame de Versailles et à moi de l'aller voir, et nous avions eu soin de demander son adresse à son cocher qui nous avait ramené de Versailles. Je restai le lendemain toute la matinée chez moi, je ne m'y ennuyais pas, je m'y délectais dans le plaisir de me trouver tout à coup un maître de maison, j'y savourais ma fortune, j'y goûtais mes aises, je me regardais dans mon appartement, j'y marchais, je m'y assis, j'y souris à mes meubles, j'y rêvais à ma cuisinière qu'il ne tenait qu'à moi de faire venir et que je crois que j'appelais pour la voir. Enfin, j'y contemplais ma robe de chambre et mes pantoufles. Et je vous assure que ce ne furent pas là les deux articles qui me touchèrent le moins. De combien de petits bonheurs l'homme du monde est-il entouré et qu'il ne sent point parce qu'il est né avec eux. Comment donc des pantoufles et une robe de chambre à Jacob ? Car c'était en me regardant comme Jacob que j'étais si délicieusement étonné de me voir dans cet équipage. C'était de Jacob que M. de la Vallée empruntait toute sa joie. Ce moment-là m'était si doux qu'à cause du petit paysan. Je vous dirai au reste que, tout enthousiasmé que j'étais de cette agréable métamorphose, elle ne me donna que du plaisir et point de vanité. Je m'en estimais plus heureux, et voilà tout, je n'allais pas plus loin. Attendez, pourtant, il faut compter les choses exactement. Il est vrai que je ne me sentis point plus glorieux, que je n'eus point cette vanité qui fait qu'un homme va se donner des airs, mais j'en eus une autre, et la voici. C'est que je songeais en moi-même qu'il ne fallait pas paraître aux autres ni si joyeux, ni si surpris de mon bonheur, qu'il était bon qu'on ne remarquât point combien j'y étais sensible, et que si je ne me connaissais pas, on dirait « Ah, le pauvre petit garçon, qu'il est aise, il ne sait à qui le dire !» Et j'aurais été honteux qu'on fît cette réflexion-là. Je ne l'aurais pas même aimé dans ma femme, je voulais bien qu'elle sût que j'étais charmé, et je le lui répétais 100 fois par jour, mais je voulais le lui dire moi-même, et non pas qu'elle y prît garde en son particulier. J'y faisais une grande différence sans démêler que confusément pourquoi. Et la vérité est qu'en pénétrant par elle-même toute ma joie, elle eut bien vu que c'était ce petit valet, ce petit paysan, ce petit misérable qui se trouvait si heureux d'avoir changé d'état, et il m'aurait été déplaisant qu'elle m'eût envisagé sous ces faces-là. C'était assez qu'elle me crût heureux, sans songer à ma bassesse passée. Cette idée-là n'était bonne que chez moi, qui en faisait intérieurement la source de ma joie, mais il n'était pas nécessaire que les autres entrassent si avant dans le secret de mes plaisirs, ni sussent de quoi je les composais. Sur les 3 heures après-midi, vêpres sonnèrent. Ma femme y alla pendant que je lisais je ne sais quel livre sérieux que je n'entendais pas trop, que je ne me souciais pas trop d'entendre, et auquel je ne m'amusais que pour imiter la contenance d'un honnête homme chez soi. Quand ma compagne fut partie, je quittai ma robe de chambre, laissez-moi en parler pendant qu'elle me réjouit, cela ne durera pas, j'y serai bientôt accoutumé. Je m'habillai et je sortis pour aller voir la jeune dame de Versailles, pour qui j'avais conçu une assez tendre estime, comme vous l'avez pu voir dans ce que je vous ai déjà dit. Tout monsieur de la Vallée que j'étais, moi qui n'avais jamais eu d'autre voiture que mes jambes ou que ma charrette quand j'avais mené à Paris le vin du seigneur de notre village, je n'avais pas assurément besoin de carrosse pour aller chez cette dame et je ne songeais pas non plus à en prendre. Mais un fiacre qui m'arrêta sur une place que je traversais me tenta. « Avez-vous affaire de moi, mon gentilhomme ?» me dit-il. Ma foi, mon gentilhomme me gagna et je lui dis « Approche !» « Voici pourtant des airs, me direz-vous. Point du tout. Je ne pris ce carrosse que par gaillardise, pour être encore heureux de cette façon-là, pour tâter, chemin faisant, d'une autre petite douceur dont je n'avais déjà goûté qu'une fois en allant chez Madame Rémy. Il y avait quelques embarras dans la rue de la jeune dame en question, dont je vais vous dire le nom pour la commodité de mon récit. C'était Madame Dorville. Mon fiacre fut obligé de me descendre à quelques pas de chez elle. À peine en étais-je descendu que j'entendis un grand bruit à 20 pas derrière moi. Je me retournai et je vis un jeune homme d'une très belle figure et fort bien mis, à peu près de mon âge, c'est-à-dire de 21 à 22 ans, qui, l'épée à la main, se défendait du mieux qu'il pouvait contre 3 hommes qui avaient la lâcheté de l'attaquer ensemble. En pareil cas, le peuple crie, fait du tintamarre, mais ne secourt point. Il y avait autour des combattants un cercle de canailles qui s'augmentait à tout moment, et qui les suivait, tantôt s'avançant, tantôt reculant, à mesure que ce brave jeune homme était poussé et reculé plus ou moins. Le danger où je le vis, et l'indignité de leur action, m'émut le cœur à un point que, sans hésiter et sans aucune réflexion, me sentant une épée au côté, je la tire, fais le tour de mon fiacre pour gagner le milieu de la rue, et je vole comme un lion au secours du jeune homme en lui criant « Courage, monsieur, courage !» Et il était temps que j'arrivasse. Car il y en avait un des 3 qui, pendant que le jeune homme bataillait contre les autres, allait tout à son aise lui plonger de côté son épée dans le corps. « Arrête, arrête, à moi » criai-je à celui-ci en allant à lui, ce qui l'obligea bien vite à me faire face. Le mouvement qu'il fit le remit du côté de ses camarades et me donna la liberté de me joindre au jeune homme qui en reprit de nouvelles forces et qui, voyant avec quelle ardeur j'y allais, poussa à son tour ces misérables sur qui j'allongeais à tout instant et à bras raccourcis des bottes qui ne paraient qu'en lâchant. Je dis à bras raccourcis, car c'est la manière de combattre d'un homme qui a du cœur et qui n'a jamais manié d'épée. Il n'y fait pas plus de façon, et n'en est peut-être pas moins dangereux ennemi pour n'en savoir pas davantage. Quoi qu'il en soit, nos trois hommes reculèrent, malgré la supériorité du nombre qu'ils avaient encore, mais aussi n'étaient-ce pas des braves gens, leur combat en fait foi. Ajoutez à cela que mon action anima le peuple en notre faveur, on ne vit pas plutôt ces trois hommes lâcher le pied que l'un avec un grand bâton, l'autre avec un manche à balai, l'autre avec une arme de la même espèce, vint les charger et acheva de les mettre en fuite. Nous laissâmes la canaille courir après eux avec des huées et nous restâmes sur le champ de bataille qui, je ne sais comment, se trouva alors près de la porte de Madame d'Orville. De sorte que l'inconnu que je venais de défendre entra dans sa maison pour se débarrasser de la foule importune qui nous environnait. Son habit et la main dont il tenait son épée étaient tout ensanglantés. Je priai qu'on fît venir un chirurgien. Il y a de ces messieurs dans tous les quartiers et il nous en vint un presque sur le champ. Une partie de ce peuple nous avait suivis jusque dans la cour de Madame d'Orville, ce qui causa une rumeur dans la maison qui en fit descendre les locataires de tous les étages. Madame d'Orville logeait au premier sur le derrière et vint savoir, comme les autres, de quoi il s'agissait. Jugez de son étonnement quand elle me vit là, tenant encore mon épée nue à la main, parce qu'on est distrait en pareil cas, et que d'ailleurs je n'avais pas eu même assez d'espace pour la remettre dans le fourreau tant nous étions pressés par la populace. Oh, c'est ici où je me sentis un peu glorieux, un peu superbe, et où mon cœur s'enfla du courage que je venais de montrer et de la noble posture où je me trouvais. Tout distrait que je devais être par ce qui se passait encore, je ne laissais pas que d'avoir quelques moments de recueillement où je me considérais avec cette épée à la main et avec mon chapeau enfoncé en mauvais garçon, car je devinais l'air que j'avais, et cela se sent. On se voit dans son amour-propre, pour ainsi dire, et je vous avoue qu'en l'état où je me supposais, je m'estimais digne de quelques égards, que je me regardais moi-même moins familièrement et avec plus de distinction qu'à l'ordinaire, je n'étais plus ce petit polisson surpris de son bonheur et qui trouvait tant de disproportion entre son aventure et lui. Ma foi, j'étais un homme de mérite à qui la fortune commençait à rendre justice. Revenons à la cour de cette maison où nous étions, mon jeune inconnu, moi, le chirurgien et tout ce monde. Madame d'Orville m'y aperçut tout d'un coup. « Et monsieur, c'est vous ? » s'écria-t-elle, effrayée de dessus son escalier où elle s'arrêta. « Et que vous est-il donc arrivé ? Êtes-vous blessé ?» Je n'ai répondu, en la saluant d'un air de héros tranquille, qu'une très petite égratignure, madame, et ce n'est pas à moi à qui on en voulait. C'est à monsieur qui est blessé, ajoutai-je, en lui montrant le jeune inconnu à qui le chirurgien parlait alors, et qui, je pense, n'avait ni entendu ce qu'elle m'avait dit, ni encore pris garde à elle. Ce chirurgien connaissait madame d'Orville. Il avait saigné son mari la veille, comme nous l'apprîmes après, et voyant que ce jeune homme pâlissait, sans doute à cause de la quantité de sang qu'il avait perdu et qu'il perdait encore, « Madame, dit-il à Madame d'Orville, je crains que monsieur ne se trouve mal. Il n'y a pas moyen de le visiter ici. Voudriez-vous, pour quelques moments, nous prêter chez vous une chambre où je puisse examiner ses blessures ?» À ce discours, le jeune homme jeta les yeux sur la personne à qui on s'adressait et me parut étonné de voir une si aimable femme qui, malgré la simplicité de sa parure et mise en femme qui vient de quitter son ménage, avait pourtant l'air noble et digne de respect. « Ce que vous me demandez n'est point une grâce et ne saurait se refuser, » répondit Madame d'Orville au chirurgien, pendant que l'autre ôtait son chapeau et la saluait d'une façon qui marquait beaucoup de considération. « Venez, messieurs, ajouta-t-elle, puisqu'il n'y a point de temps à perdre. » « Je ne suis fâché de cet accident-ci, » dit alors le jeune homme, que parce que je vais vous embarrasser, madame. » Et là-dessus, il s'avança et monta l'escalier en s'appuyant sur moi, à qui il avait déjà dit par intervalle mille choses obligeantes et qu'il n'appelait que son cher ami. « Vous sentez-vous faible ? » lui dis-je. « Pas beaucoup, » reprit-il. « Je ne me crois blessé qu'au bras et un peu à la main. Ce ne sera rien. Je n'aurais perdu qu'un peu de sang et j'y aurais gagné un ami qui m'a sauvé la vie. « Oh, pardi, » lui dis-je, « il n'y a pas à me remercier de ce que j'ai fait. » Car j'y ai eu trop de plaisir et je vous ai aimé tout d'un coup, seulement en vous regardant. J'espère que vous m'aimerez toujours, reprit-il, et nous entrions dans l'appartement de Madame d'Orville, qui nous avait précédés pour ouvrir un cabinet assez propre, où elle nous fit entrer avec le chirurgien, et où il y avait un petit lit qui était celui de la mère de cette dame. À peine y fûmes-nous que son mari, M. d'Orville, m'envoya une petite servante d'assez bonne façon qui me fit des compliments de sa part et me dit que sa femme venait de lui apprendre que j'étais la personne à qui il avait tant d'obligations, qu'il ne pouvait se lever à cause qu'il était malade, mais qu'il espérait que je voudrais bien lui faire l'honneur de le voir avant que je m'en allasse. Pendant que cette servante me parlait, Madame d'Orville tirait d'une armoire tout le linge dont on pouvait avoir besoin pour le blessé. « Dites à monsieur d'Orville, répondis-je, que c'est moi qui aurai l'honneur de le saluer, que je vais dans un instant passer dans sa chambre et que j'attends seulement qu'on ait visité les blessures de monsieur, ajoutai-je en montrant le jeune homme à qui on avait déjà ôté son habit et qui était assis dans un grand fauteuil. » Madame d'Orville sortit alors du cabinet, le chirurgien fit sa charge, visita le jeune homme et ne lui trouva qu'une blessure au bras qui n'était point dangereuse, mais de laquelle il perdait beaucoup de sang. On y remédia, et comme Madame d'Orville avait pourvu à tout, le blessé changea de linge, et pendant que le chirurgien lui aidait à se rhabiller, j'allai voir cette dame et son mari, à qui tout malade et tout couché qu'il était, je trouvais l'air d'un honnête homme, je veux dire d'un homme qui a de la naissance. On voyait bien à ses façons, à ses discours, qu'il aurait dû être mieux logé qu'il n'était, et que l'obscurité où il vivait venait de quelque infortune. Il faut qu'il soit arrivé quelque chose à cet homme-là, disait-on en le voyant, il n'est pas à sa place. Et en effet, ces choses-là se sentent. Il en est de ce que je dis là-dessus comme d'un homme d'une certaine condition à qui vous donneriez un habit de paysan. En faites-vous un paysan pour cela? Non, vous voyez qu'il n'en porte que l'habit. Sa figure en est vêtue et non point habillée, pour ainsi dire. Il y a des attitudes et des mouvements et des gestes dans cette figure qui font qu'elle est étrangère aux vêtements qui la couvrent. Il en était donc à peu près de même de M. d'Orville. Quoiqu'il eût un logement et des meubles, on trouvait qu'il n'était ni logé ni meublé. Voilà tout ce que je dirais de lui à cet égard. C'en est assez sur un homme que je n'ai guère vu et dont la femme sera bientôt veuve. Il n'y a point de remerciement qu'il ne me fît sur mon aventure de Versailles avec Mme d'Orville, point d'éloge qu'il ne donna à mon caractère, mais j'abrège. Je ne vis point la mère, apparemment elle était sortie. Nous parlâmes de M. Bonneau qui nous avait recommandé de l'aller voir, et il fut décidé que nous nous y rendrions le lendemain, et que pour n'y aller ni plus tôt ni plus tard l'un que l'autre, je viendrais prendre Mme d'Orville sur les 2h30. Nous en étions là quand le blessé entra dans la chambre avec le chirurgien. Autre remerciement de sa part sur tous les secours qu'il avait reçus dans la maison, force regard sur Mme d'Orville, mais modeste, respectueux, enfin ménagé avec beaucoup de discrétion, le tout soutenu de je ne sais quelle politesse tendre dans ses discours, mais d'une tendresse presque imperceptible et hors de la portée d'un mari qui, quoiqu'il aime sa femme, l'aime en homme tranquille et qui a fait sa fortune auprès d'elle, ce qui lui ôte en pareil cas une certaine finesse de sentiment et lui épaissit extrêmement l'intelligence. Quant à moi, je remarquai sur le champ cette petite teinte de tendresse dont je parle parce que, sans le savoir encore, j'étais très disposé à aimer Madame d'Orville, et je suis sûr que cette dame le remarqua aussi. J'en eus du moins pour garant sa façon d'écouter le jeune homme, un certain baissement d'yeux et ses réparties modiques et rares. Et puis Madame d'Orville était si aimable. En faut-il davantage pour mettre une femme au fait, quelque raisonnable qu'elle soit? Est-ce que cela ne lui donne pas alors le sens de tout ce qu'on lui dit? Y a-t-il rien dans ce goût-là qui puisse lui échapper? Et ne s'attend-elle pas toujours à pareille chose? « Mais monsieur, pourquoi ces trois hommes vous ont-ils attaqué ?» lui dit le mari, qui le plus souvent répondait pour sa femme et qui, de la meilleure foi du monde, disputait de compliments avec le blessé parce qu'il ne voyait dans les siens que les expressions d'une simple et pure reconnaissance. « Les connaissez-vous, ces trois hommes » ajouta-t-il. « Non, monsieur, » reprit le jeune homme, qui, comme vous le verrez dans la suite, nous cacha alors le vrai sujet de son combat. « Je n'ai fait que les rencontrer. » Ils venaient à moi dans cette rue-ci, j'étais distrait, je les ai fort regardés en passant, sans songer à eux. Cela leur a déplu, un d'entre eux m'a dit quelque chose d'impertinent, je lui ai répondu, ils ont répliqué tous trois. Là-dessus, je n'ai pu m'empêcher de leur donner quelques marques de mépris, un d'eux m'a dit une injure, je n'y ai reparti qu'en l'attaquant, ils se sont joints à lui, je les ai eus tous trois sur les bras, et j'aurais succombé sans doute si monsieur, il parlait de moi, n'était généreusement venu me défendre. Je lui dis qu'il n'y avait pas là une grande générosité, que tout honnête homme à ma place aurait fait de même. Ensuite, n'auriez-vous pas besoin de vous reposer plus longtemps, lui dit M. d'Orville. Ne sortez-vous pas trop tôt? N'êtes-vous pas affaibli? Nullement, monsieur, il n'y a point de danger, dit à son tour le chirurgien. Monsieur est en état de se retirer chez lui, il ne lui faut qu'une voiture, on en trouvera sur la place voisine. Aussitôt, la petite servante part pour en amener une, la voiture arrive. Le blessé me prie de ne pas le quitter. J'aurais mieux aimé rester pour avoir le plaisir d'être avec Madame d'Orville, mais il n'y avait pas moyen de le refuser après le service que je venais de lui rendre. Je le suivis donc. Une petite toux qui prit au mari abrégea toutes les politesses avec lesquelles on se serait encore reconduit de part et d'autre. Nous voilà descendus. Le chirurgien qui nous reconduisit jusque dans la cour me parut très révérencieux. Apparemment qu'il était bien payé. Nous le quittons et nous montons dans notre fiacre. Je n'attendais rien de cette aventure-ci et ne pensais pas qu'elle dût me rapporter autre chose que l'honneur d'avoir fait une belle action. Ce fut là pourtant l'origine de ma fortune, et je ne pouvais guère commencer ma course avec plus de bonheur. Savez-vous qui était l'homme à qui probablement j'avais sauvé la vie? Rien qu'un des neveux de celui qui pour lors gouvernait la France, du Premier ministre en un mot. Vous sentez bien que cela devient sérieux, surtout quand on a affaire à un des plus honnêtes hommes du monde, à un neveu qui aurait mérité d'être fils de roi. Je n'ai jamais vu d'âme si noble. Par quel hasard, me direz-vous, s'était-il trouvé exposé au péril dont vous le tirâtes? Vous l'allez voir. Où allons-nous? Lui dit le cocher. À tel endroit, répondit-il. Et ce ne fut point le nom d'une rue qu'il lui donna, mais seulement le nom d'une dame. Chez madame la marquise une telle. Et le cocher n'en demanda pas davantage, ce qui marquait que ce devait être une maison fort connue, et me faisait en même temps soupçonner que mon camarade était un homme de conséquence. Aussi en avait-il la mine, et je soupçonnais juste. À ça, mon cher ami, me dit-il dans le trajet, je vais vous dire la vérité de mon histoire à vous. Dans le quartier d'où nous sortons, il y a une femme que je rencontrai il y a quelques jours à l'opéra. Je la remarquai d'une loge où j'étais avec des hommes. Elle me parut extrêmement jolie, aussi l'est-elle. Je demandai qui elle était, on ne la connaissait pas. Sur la fin de l'opéra, je sortis de ma loge pour aller la voir sortir de la sienne et la regarder tout à mon aise. Je me trouvai donc sur son passage, elle ne perdait rien à être vue de près. Elle était avec une autre femme, assez bien faite. Elle s'aperçut de l'attention avec laquelle je la regardais et de la façon dont il y prit garde. Il me sembla qu'elle me disait « En demeurerez-vous là ?» Enfin, je vis je ne sais quoi dans ses yeux qui m'encourageait, qui m'assurait qu'elle ne serait pas d'un difficile abord. Il y a de certains airs dans une femme qui vous annoncent ce que vous pourriez devenir avec elle. Vous y démêlez quand elle vous regarde s'il n'y a que de la coquetterie dans son fait ou si elle aurait envie de lier connaissance. Quand ce n'est que le premier, elle ne veut que vous paraître aimable, et voilà tout. Ses mines ne passent pas cela. Quand c'est le second, ses mines en disent davantage. Elle vous appelle, et j'eus cru voir ici que c'était le second. Mais on a peur de se tromper, et je la suivis jusqu'à l'escalier, sans rien oser que d'avoir toujours les yeux sur elle, et la coudoyer même en marchant. Elle me tira d'intrigue et remédia à ma retenue discrète par une petite finesse qu'elle imagina, et qui fut de laisser tomber son éventail. Je sentis son intention et profitai du moyen qu'elle m'offrait de placer une politesse, et de lui dire un mot ou deux en lui rendant l'éventail que je ramassai bien vite. Ce fut pourtant elle qui, de peur de manquer son coup, parla la première. « Monsieur, je vous suis obligé, me dit-elle d'un air gracieux en le recevant. « Je suis trop heureux, madame, d'avoir pu vous rendre ce petit service, lui répondis-je le plus galamment qu'il me fut possible. » Et comme en cet instant, elle semblait chercher à mettre sûrement le pied sur la première marche de l'escalier, je tirai encore parti de cela et lui dis « Il y a bien du monde, on nous pousse, que j'ai l'honneur de vous donner la main pour plus de sûreté, madame. » « Je le veux bien, dit-elle d'un air aisé, car je marche mal. » Et je la menai ainsi, toujours l'entretenant du plaisir que j'avais eu à la voir et de ce que j'avais fait pour la voir de plus près. « N'est-ce pas vous aussi, monsieur, que j'ai vu dans une telle loge ?» me dit-elle, comme pour m'insinuer à son tour qu'elle m'avait démêlé. Et de discours en discours, nous arrivâmes jusqu'en bas, où un grand laquais, qui n'avait pas trop l'air d'être à elle, à la manière prévenante dont il se présenta, ce qui est une liberté que ces messieurs-là ne prennent pas avec leur maîtresse, vint à elle et lui dit qu'on aurait de la peine à faire approcher le carrosse, mais qu'il n'était qu'à 10 pas. « Eh bien, allons jusque-là, sauvons-nous, » dit-elle à sa compagne, « n'est-ce pas ?»« Comme il vous plaira, » reprit l'autre, et je les y menai en rasant la muraille. Le mien, je dis, mon carrosse, n'était qu'à moitié chemin. Notre court entretien m'avait enhardi, et je leur proposai sans façon d'y entrer et de les ramener tout de suite chez elle pour avoir plutôt fait, mais elles ne voulurent pas. J'observai seulement que celle que je tenais jetait un coup d'œil sur l'équipage et l'examinait, et nous arrivâmes au leur qui, par parenthèse, n'appartenait à aucune d'elles et n'était qu'un carrosse de remise qu'on leur avait prêté. J'ai oublié de vous dire qu'en la menant jusqu'à ce carrosse, je l'avais priée de vouloir bien que je la revisse chez elle. Ce qu'elle m'avait accordé sans façon et en femme du monde qui rend sans conséquence politesse pour politesse. « Volontiers, monsieur, vous me ferez honneur, » m'avait-elle répondu, à quoi elle avait ajouté « tout ce qu'il fallait pour la trouver, de sorte qu'en la quittant, je la menaçai d'une visite très prompte. Et en effet, j'y allai le lendemain. Elle me parut assez bien logée. Je vis des domestiques, il y avait du monde et d'honnêtes gens autant que j'en pus juger. On y joua, j'y fus reçu avec distinction. Nous eûmes ensemble quelques instants de conversation particulière. Je lui parlai d'amour. Elle ne me désespéra pas et elle m'en plut davantage. Nous nous entretenions encore à l'écart quand un de ceux qui viennent de m'attaquer entra. C'est un homme entre deux âges qui fait de la dépense et que je crois de province. Il me parut inquiet de notre tête-à-tête. Il me sembla aussi qu'elle avait égard à son inquiétude et qu'elle se hâta de rejoindre sa compagne. Quelques moments après, je me retirai et le lendemain, je retournai chez elle de meilleure heure que la veille. Elle était seule, je lui en comptai sur nouveau frais. D'abord, elle badina de mon amour d'un ton qui signifiait pourtant « je voudrais qu'il fût vrai ». J'insistai pour la persuader. « Mais cela est-il sérieux? Vous m'embarrassez, on pourrait vous écouter de reste. Ce n'est pas là la difficulté, me dit-elle. Mais ma situation ne me le permet guère. Je suis veuve, je plaide. Il me restera peu de bien peut-être. Vous avez vu ici un assez grand homme d'une figure bien au-dessous de la vôtre et qui n'est qu'un simple bourgeois, mais qui est riche et dont je puis faire un mari quand il me plaira. Il m'empresse beaucoup. » Et j'ai tant de peine à m'y résoudre que je n'ai rien décidé jusqu'ici. Et depuis un jour ou deux, ajouta-t-elle en souriant, je déciderai encore moins si je m'en croyais. Il y a des gens qu'on aimerait plus volontiers qu'on en épouserait d'autres. Mais j'ai trop peu de fortune pour suivre mes goûts. Je ne saurais même demeurer encore longtemps à Paris comme il me conviendrait d'y être. Et si je n'épouse pas, il faut que je m'en retourne à une terre que je hais et dont le séjour est si triste qu'il me fait peur. Ainsi, comment voulez-vous que je fasse ? Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout cela au reste. Il faut que je sois folle et je ne veux plus vous voir. » À ce discours, je sentis à merveille que j'étais avec une de ces beautés malaisées dont le meilleur revenu consiste en un joli visage. Je compris l'espèce de liaison qu'elle avait avec cet homme qu'elle qualifiait d'un mari futur. Je sentis bien aussi qu'elle me disait « Si je le revois, le remplacerez-vous ou bien ne me demandez-vous qu'une infidélité passagère ?» Petite façon de traiter l'amour qui me rebuta un peu. Je ne m'étais imaginé qu'une femme galante et non pas intéressée, de sorte que pendant qu'elle parlait, je n'étais pas d'accord avec moi-même sur ce que je devais lui répondre. Mais je n'eus pas le temps de me déterminer parce que ce bourgeois en question arriva et nous surprit. Il fronça le sourcil, mais insolemment, en homme qui peut mettre ordre à ce qu'il voit, il est vrai que je tenais la main de cette femme quand il entra. Elle eut beau le prendre d'un air riant avec lui et lui dire même « je vous attendais », il n'en reprit pas plus de sérénité et sa physionomie resta toujours sombre et brutale. « Heureusement, vous ne vous ennuyez pas. » Ce fut là tout ce qu'elle en put tirer. Pour moi, je ne daignais pas jeter les yeux sur lui et ne cessais point d'entretenir cette femme de mille cajoleries pour le punir de son impertinent procédé, après quoi je sortis. Le jeune homme en était là de son récit quand le cocher arrêta à quelques pas de la maison où il nous menait, ce dont il ne pouvait approcher à cause de deux ou trois carrosses qui l'en empêchaient. Nous sortîmes du fiacre, je vis le jeune homme parler à un grand laquais qui ensuite ouvrit la portière d'un de ses carrosses. « Montez, mon cher ami, me dit aussitôt mon camarade. « Où ? Lui dis-je. « Dans ce carrosse, me répondit-il, c'est le mien que je n'ai pu prendre en allant chez la femme en question. » Et remarquez qu'il n'y avait rien de plus leste que cet équipage. « Oh, dis-je en moi-même, ceci va encore plus loin que je ne croyais. Voici du grand. Est-ce que mon ami serait un seigneur ? Il faut prendre garde à vous, monsieur de la vallée, et tâcher de parler bon français. Vous êtes vêtu en enfant de famille, soutenez l'honneur du juste au corps et que votre entretien réponde à votre figure qui est passable. » Je vous rends à peu près ce que je pensais rapidement alors. Et puis je montai en carrosse, incertain si je devais y monter le premier, et n'osant en même temps faire des compliments là-dessus. « Le savoir-vivre veut-il que j'aille en avant ou bien veut-il que je recule ?» me disais-je en l'air, c'est-à-dire en montant. Car le cas était nouveau pour moi, et ma légère expérience ne m'apprenait rien sur cet article, sinon qu'on se fait des cérémonies lorsqu'on est deux à une porte. Et je penchais à croire que ce pouvait être ici de même. À bon compte, je montais toujours, et j'étais déjà placé, que je songeais encore au parti qu'il fallait prendre. Me voilà donc côte à côte de mon ami de qualité et de père à compagnon avec un homme à qui, par hasard, j'aurais fort bien pu, 5 mois auparavant, tenir la portière ouverte de ce carrosse que j'occupais avec lui. Je ne fis pourtant pas alors cette réflexion. Je la fais seulement à présent que j'écris. Elle se présenta bien un peu, mais je refusai tout net d'y faire attention. J'avais besoin d'avoir de la confiance et elle me l'aurait ôté. « Avez-vous affaire ?» me dit le comte d'Orsan, c'était le nom du maître de l'équipage. « Je me porte fort bien et ne veux pas m'en retourner sitôt chez moi. Il est encore de bonne heure, allons à la comédie, j'y serai aussi à mon aise que dans ma chambre. » Jusque-là, je m'étais assez possédé, je ne m'étais pas tout à fait perdu de vue, mais ceci fut plus fort que moi, et la proposition d'être mené ainsi gaillardement à la comédie me tourna entièrement la tête. La hauteur de mon état m'éblouit. Je me sentis étourdi d'une vapeur de joie, de gloire, de fortune, de mondanité, si on veut bien me permettre de parler ainsi, car je n'ignore pas qu'il y a des lecteurs fâcheux, quoique estimables, avec qui il vaut mieux laisser là ce qu'on sent que de le dire, quand on ne peut l'exprimer que d'une manière qui paraîtrait singulière, ce qui arrive quelquefois pourtant, surtout dans les choses où il est question de rendre ce qui se passe dans l'âme, cette âme qui se tourne en bien plus de façons que nous n'avons de moyens pour les dire, et à qui du moins on devrait laisser dans son besoin la liberté de se servir des expressions du mieux qu'elle pourrait, pourvu qu'on entendît clairement ce qu'elle voudrait dire, et qu'elle ne pût employer d'autres termes sans diminuer ou altérer sa pensée. Ce sont les disputes fréquentes qu'on fait là-dessus qui sont cause de ma parenthèse, je ne m'y serais pas engagé si j'avais cru l'affaire si longue, revenons. « Comme il vous plaira, lui répondis-je, et le carrosse partit. Je ne vous ai pas achevé le récit de mon aventure, me dit-il, en voici le reste. J'ai dîné aujourd'hui chez Madame la Marquise II, sous prétexte d'affaires, j'en suis sorti sur les 3 heures pour aller chez cette femme. Mon carrosse n'était point encore revenu, je n'ai vu aucun de mes gens en bas. Il y a des carrosses près de là, j'ai dit qu'on alla m'en chercher un dans lequel je me suis mis et qui m'a conduite à sa porte. À peine allais-je monter l'escalier que j'ai vu paraître cet homme de si brutale humeur qui en descendait avec 2 autres et qui, son chapeau sur la tête, quoique je saluasse par habitude, m'a rudement poussé en passant. « Vous êtes bien grossier, lui ai-je dit, en levant les épaules avec dédain. « À qui parlez-vous ? » a repris un des 2 autres qui n'avait pas salué non plus. « À tous, ai-je répondu. » À ce discours, il a porté la main sur la garde de son épée. J'ai cru devoir tirer la mienne en sautant en arrière parce que 2 de ces gens-là étaient au-dessus de moi et avaient encore 2 marches à descendre. Il n'y avait que l'autre qui était passé. Aussitôt, j'ai vu 3 épées tirer contre moi. Les lâches m'ont poursuivi jusque dans la rue et nous nous battions encore quand vous êtes venu à mon secours et venu au moment où l'un de mes assassins m'allait porter un coup mortel. « Oui, lui dis-je, j'en ai eu grande peur, et c'est pourquoi j'ai tant crié après lui pour empêcher son dessein, mais n'en parlons plus, ce sont des canailles, et la femme aussi. « Vous jugez bien du cas que je fais d'elle, me répondit-il, mais parlons de vous. Après ce que vous avez fait pour moi, il n'y a point d'intérêt que je ne doive prendre à ce qui vous regarde. Il faut que je sache à qui j'ai tant d'obligations et que de votre côté vous me connaissiez aussi. On m'appelle le comte d'Orsan. Je n'ai plus que ma mère, je suis fort riche, les personnes à qui j'appartiens ont quelques crédits. J'ose vous dire qu'il n'y a rien où je ne puisse vous servir et je serais trop heureux que vous m'en fournissiez l'occasion. Réglez-vous là-dessus et dites-moi votre nom et votre fortune. » D'abord, je le remerciais, cela va sans dire, mais brièvement parce qu'il le voulut ainsi et que je craignais d'ailleurs de m'engager dans quelque tournure de compliment qui ne fût pas d'un goût convenable. Quand on manque d'éducation, il n'y paraît jamais tant que lorsqu'on veut en montrer. Je remerciai donc dans les termes les plus simples. Ensuite, « Mon nom est Lavallée, lui dis-je. Vous êtes un homme de qualité, moi je ne suis pas un grand monsieur. Mon père demeure à la campagne, où est tout son bien, et d'où je ne fais presque que d'arriver dans l'intention de me pousser et de devenir quelque chose comme font tous les jeunes gens de province et de ma sorte. Et dans ce que je disais là, on voit que je n'étais que discret et point menteur. Mais, ajoutai-je d'un ton plein de franchise, quand je ne ferai de ma vie rien à Paris et que mon voyage ne me vaudrait que le plaisir d'avoir été bon à un si honnête homme que vous, par ma foi, monsieur, je ne me plaindrai pas, je m'en retournerai content. » Il me tendit la main à ce discours et me dit « Mon cher Lavallée, votre fortune n'est plus votre affaire, c'est la mienne. C'est l'affaire de votre ami, car je suis le vôtre, et je veux que vous soyez le mien. » Le carrosse s'arrêta alors. Nous étions arrivés à la comédie et je n'eus le temps de répondre que par un sourire à de si affectueuses paroles. « Suivez-moi, me dit-il, après avoir donné à un laquais de quoi prendre des billets, et nous entrâmes, et me voilà donc à la comédie, d'abord au chauffoir, ne vous déplaise, où le comte d'Orsan trouva quelques amis qu'il salua. Ici se dissipèrent toutes ces enflures de cœur dont je vous ai parlé, toutes ces fumées de vanité qui m'avaient monté à la tête. » Les airs et les façons de ce pays-là me confondirent et m'épouvantèrent. Hélas, mon maintien annonçait un si petit compagnon. Je me voyais si gauche, si dérouté au milieu de ce monde qui avait quelque chose de si aisé et de si leste. « Que vas-tu faire de moi ?» me disais-je. Aussi, de ma contenance, je n'en parlerai pas, attendu que je n'en avais point, à moins qu'on ne dise que n'en avoir point est d'en avoir une, il ne t'important pas à moi de m'en donner une autre, mais je crois que je n'en pus jamais venir à bout, non plus que d'avoir un visage qui ne parut ni déplacé ni honteux, car, pour étonner, je me serais consolé que le mien n'eût paru que cela. Ce n'aurait été que signe que je n'avais jamais été à la comédie, et il n'y aurait pas eu grand mal. Mais c'était une confusion secrète de me trouver là, un certain sentiment de mon indignité qui m'empêchait d'y être hardiment, et que j'aurais bien voulu qu'on ne vît pas dans ma physionomie, et qu'on n'en voyait que mieux parce que je m'efforçais de le cacher. Mes yeux m'embarrassaient, je ne savais sur qui les arrêter, je n'osais prendre la liberté de regarder les autres, de peur qu'on ne démêlât dans mon peu d'assurance que ce n'était pas à moi à avoir l'honneur d'être avec de si honnêtes gens et que j'étais une figure de contrebande, car je ne sache rien qui signifie mieux ce que je veux dire que cette expression qui n'est pas trop noble. Il est vrai aussi que je n'avais pas passé par assez de degrés d'instruction et d'accroissement de fortune pour pouvoir me tenir au milieu de ce monde avec la hardiesse requise. J'y avais sauté trop vite, je venais d'être fait monsieur, encore n'avais-je pas la subalterne éducation des messieurs de ma sorte, et je tremblais qu'on ne connût à ma mine que ce monsieur-là avait été Jacob. Il y en a qui, à ma place, auraient eu le front de soutenir cela, c'est-à-dire qui auraient payé des fronteries. Mais qu'est-ce qu'on y gagne ? Rien. Ne voit-on pas bien alors qu'un homme n'est effronté que parce qu'il devrait être honteux ? « Vous êtes un peu changé, dit quelqu'un de ces messieurs au comte d'Orsan. « Je le crois bien, dit-il, et je pouvais être pis. » Là-dessus, il conta son histoire et par conséquent la mienne, de la manière du monde la plus honorable pour moi. « De sorte, dit-il en finissant, que c'est à monsieur à qui je dois l'honneur de vous voir encore. » Autre fatigue pour l'avaler, sur qui ce discours attirait l'attention de ces messieurs. Il parcourait donc mon hétéroclite figure, et je pense qu'il n'y avait rien de si sot que moi, ni de si plaisant à voir. Plus le comte d'Orsan me louait, plus il m'embarrassait. Il fallait pourtant répondre avec mon petit habit de soie et ma petite propreté bourgeoise, dont je ne faisais plus d'estime depuis que je voyais tant d'habits magnifiques autour de moi. Mais que répondre ? « Oh, point du tout, monsieur, vous vous moquez, et puis... C'est une bagatelle, il n'y a pas de quoi. Cela se devait, je suis votre serviteur. » Voilà de mes réponses que j'accompagnais civilement de courbettes de corps courtes et fréquentes auxquelles apparemment ces messieurs prirent goût, car il n'y en eut pas un qui ne me fît des compliments pour avoir la sienne. Un d'entre eux que je vis se retourner pour rire me mit au fait de la plaisanterie et acheva de m'anéantir. Il n'y eut plus de courbettes, ma figure alla comme elle put et mes réponses de même. Le comte d'Orsan, qui était un galant homme d'un caractère d'esprit franc et droit, continuait de parler sans s'apercevoir de ce qui se passait sur mon compte. « Allons prendre place, me dit-il, et je le suivis. Il me mena sur le théâtre, où la quantité de monde me mit à couvert de pareils affronts et où je me plaçai avec lui comme un homme qui se sauve. C'était une tragédie qu'on jouait, Mithridate, s'il m'en souvient. Ah, la grande actrice que celle qui jouait Monime. J'en ferai le portrait dans ma sixième partie, de même que je ferai celui des acteurs et des actrices qui ont brillé de mon temps. Fin de la cinquième partie. Contrairement à ce qui est annoncé à la fin de la cinquième partie, parue en 1735, Marivaux ne publiera jamais de sixième partie, laissant son œuvre inachevée. 21 ans plus tard, en 1756, un continuateur anonyme fit paraître une suite en trois parties, conduisant les mémoires de M. M., alias Jacob, alias M. de la Vallée, jusqu'à un dénouement. Cette suite, apocryphe, ainsi qu'on la nomme dans les éditions en 8 parties du Paysan parvenu, n'étant plus de la main de Marivaux, j'ai choisi de l'écarter de cet enregistrement.